Bonjour.
Alors, Antoinette Richner, moi, quand j'ai eu ce roman dans les mains la première fois, j'ai pensé qu'on allait parler prix, oui, mais prix cinématographique, parce que la couverture, elle est sobre, hein, de couleur crème. Il y avait juste un petit liseré jaune imprimé léopard. Moi, je pensais que vous alliez nous emmener à Locarno.
Locarno, eh oui, on m'a déjà fait la remarque, mais en fait, il s'agirait plutôt du marsupilami, si j'en crois mon éditrice.
Ah, d'accord, ok. Alors, marsupilami et léopard de Locarno, même combat, on va dire. Mais non, alors, pas du tout avec ce roman. C'est dans la tête d'un sculpteur que vous nous emmenez. Un sculpteur de Ropf, on y reviendra, hein. Un artiste torturé qui tente année après année de gagner le prix du plus beau Ropf, justement. Et cet homme, bah, finalement, il est pris entre son art et le quotidien, notamment son rôle de père de famille. C'est le propre de tout artiste, ce tiraillement entre la vie quotidienne, la vie de monsieur, madame, tout le monde, et puis son art.
C'est sûr qu'un artiste, il est entre ses aspirations, ses élans créateurs, et puis il faut qu'il soit aussi ancré dans le quotidien, il a les pieds sur terre. Après, je pense qu'on peut élargir aussi, puis se dire, c'est le problème de tout le monde, jusqu'où je suis prêt à sacrifier des choses de ma vie pour ma carrière, par exemple, ou ma passion.
Oui, justement, concilier vie professionnelle, vie amoureuse, vie sociale, avec une vie intérieure, bon, c'est un peu l'aspiration qu'on a tous, puis c'est le thème central du roman, finalement.
Oui, jusqu'où on peut-être se ménager effectivement des espaces intérieurs, des espaces d'introspection, de contemplation, de silence, jusqu'où on est par actif dans la vie, impliqué, on est dans l'action. Voilà, c'est peut-être la recherche d'un équilibre que ça raconte.
Ce roman, c'est donc le monologue du sculpteur, un sculpteur de Ropf. Vous nous expliquez ce que sont ces Ropf?
Oui, alors, il s'agit d'une sorte de création assez physiologique, assez organique, parce qu'il y a un petit côté fantastique là-dedans, c'est-à-dire que le type, il va sculpter à partir d'une matière qui lui sort de son propre nombril. Donc, ça grossit un petit peu comme une excroissance, et au bout d'un moment, il la tranche, donc là, c'est gore, et ça sèche, et en fait, il sculpte ça, et ça donne une forme, enfin, moi, ce que j'imaginais, une forme de buste, quoi.
Alors, parce que ces sculptures, elles sortent vraiment du corps du sculpteur. Vous aussi, vous mettez toutes vos tripes dans l'écriture. C'est ça un petit peu le parallèle.
En fait, j'ai choisi cette image du nombril. Parce que déjà, ça me permettait de faire le lien avec la notion d'égoïsme. Hein. Puis c'est assez rigolo, on dit nombrilisme, alors que finalement, c'est quand même le point qui nous reliait à notre mère, donc aux autres. Puis aussi parce que ouais, j'ai quand même cette fascination dans la création de me dire, mais finalement, cette matière qu'on invente, qui n'existait pas deux minutes avant qu'on l'invente, d'où elle vient? Donc voilà, c'était pour illustrer, oui, c'est vrai, une application physiologique, physique, puis de dire que c'est pas seulement quelque chose qui se passe dans la tête, mais c'est quelque chose de très concret aussi, en fait.
Alors cet artiste, honnêtement, il est pas. Enfin, moi, je l'ai trouvé pas très sympathique, hein, cet artiste, voire carrément odieux par
oui,
moment.
C'est vrai qu'il est antipathique, c'est un anti-héros, on peut dire.
Et il se regarde justement ce nombril d'où sort ces créatures. Pas beaucoup d'égards pour son entourage. Il vous a été inspiré par quelqu'un, hein, dénoncé ce matin, vous pouvez.
En fait, le plaisir, je crois, dans l'écriture, c'est l'exagération, justement, de pouvoir tirer au grotesque, en fait. Donc, je pense cette petite voix de frustration, d'amertume, c'est vrai, de gros égoïsme, quoi. On peut tous l'avoir, mais sur un mode mineur. Et puis là, en fait, je l'ai vraiment fait péter. Je l'ai fait éclater jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que ça en lui.
Mais quelque part,
ça crée un monstre.
Quelque part, c'est plus facile de décrire quelqu'un de rugueux que quelqu'un de trop lisse, justement. Ou c'est plus passionnant?
Ben, c'est vrai que si je repense à l'histoire de la littérature, je me dis, ben des personnages de Dostoïevski comme l'idiot ou comme celui de Crime et Châtiment, bien, je sais pas, des personnages de Flaubert comme Madame Bovary, si on y pense, c'est vraiment des personnages qui sont pas du tout moraux, donc on peut les réprouver, mais en même temps, notre intérêt de lecteur, je pense qu'il est quand même éveillé par des personnages qui vont pas bien. Sinon, si on racontait l'histoire de quelqu'un qui va bien, ce serait nettement moins intéressant.
On se ferait un petit peu...
limite.
Alors, dans ce roman, il y a pas mal d'humour noir. Il y a de la vie quotidienne également. Moi, je pense par exemple à un passage clé du livre, hein, lorsque le héros doit préparer la course d'école du fiston, qu'il est abasourdi de constater qu'avec, non seulement il y a la liste de l'équipement indispensable, mais il y a même une fiche pour donner des conseils sur comment faire un sandwich sain et équilibré. Ça, à mon avis, c'est du vécu, tout comme l'amoncellement des bricolages ramenés par les enfants de l'école.
Je ne vais pas m'aventurer pour ce qui est du vécu ou pas. Mais forcément, moi je suis artiste, je vis en famille, j'ai deux enfants, donc forcément qu'il y a aussi mes petits âges, disons, et puis mes grandes questions. Justement, on a parlé de ce tiraillement, mes grandes questions, qu'est-ce que la famille, pourquoi la famille, qu'est-ce que l'art, pourquoi l'art. Voilà, après c'est vrai que je me suis fait plaisir sur ces problèmes du quotidien, parce que c'est là-dedans que ça se joue finalement, ça se joue. Femme ou homme, ou artiste ou pas artiste, notre résistance nerveuse, elle va justement être testée dans des petits moments d'accumulation où tout à coup, on n'en peut plus, il y a trop, il y a encore la course d'école qui arrive, voilà, qu'on n'avait pas préparé. Et voilà, c'est ça qui me faisait rire. Je pense que dans mon acharnement à aboutir ce texte, qui était quand même un gros boulot, il y avait un petit peu la volonté de me prouver, le challenge, quoi, que je pouvais me confronter au maniement d'un si gros volume de texte. Hein, parce que c'est vrai que quand j'écrivais des nouvelles, on a plus vite fait le tour, c'est plus facile. Donc voilà, j'ai voulu me prouver que j'y arrivais. C'est fait, je suis contente. Mais après, c'est vrai que dans l'écriture, on ne se pose pas forcément la question du marché, de l'objet qu'on va mettre sur le marché. Maintenant qu'il est sorti, je mesure aussi que dans le secteur culturel, c'est un peu hiérarchisé, puis ça reste une sorte de genre majeur, le roman, par rapport au théâtre ou à la poésie orale ou écrite.
Alors dans ce roman, les personnages principaux n'ont pas de nom, on ne connaît pas celui du narrateur, son épouse c'est juste S, ses rivaux en sculpture sont désignés par leurs initiales, ses enfants se sont mouflés et remouflés. Pourquoi ce choix ?
Pour les universaliser, puis parce que, en fait, dans la sonorité aussi, je trouvais rigolo ce mouflet, le remouflet, de rajouter juste une particule, et puis ça donnait le deuxième enfant, le remouflet.
Puis au niveau de la forme aussi, moi je trouve que vous avez pris pas mal de liberté, on va dire, avec des virgules qui ponctuent des pages entières, avec des majuscules qui s'invitent dans certains mots. Il y avait un plaisir particulier justement à jouer avec la forme.
Oui, il y avait un jeu, le plaisir du jeu. Puis au début, j'ai commencé avec une grammaire, une ponctuation standard, et je me suis rendu compte que ça ne le faisait pas et ça ne jouait pas. Et c'était comme s'il me manquait une valeur intermédiaire entre la virgule et le point. Finalement, j'ai choisi cette virgule qui est suivie d'un saut à la ligne parce que ça me permet de passer à autre chose, mais sans baisser le ton comme avec un point, et puis de rester sur quelque chose d'un peu suspendu. Donc ça correspondait pour moi à ce narrateur qui est toujours dans sa parole intérieure sans pouvoir reprendre haleine. Je trouvais que ça jouait bien.
Alors justement, ce côté très, très oral finalement, on va pouvoir le voir demain soir, hein, puisqu'il y a une lecture performance avec le comédien Joël Maillard et la musicienne Olivia Pedroli. C'est un texte qui justement vous ramène au théâtre, qui est vos premiers amours finalement.
C'est sûr que c'est un monologue, je pense qu'il est, c'est à la fois un roman, un récit, une narration, puis à la fois quelque chose, je pense qu'il y a une matière orale, ouais, j'espère. Enfin, en tout cas, dans ma tête, je l'entendais très fort. J'entendais son rythme, et puis je me réjouis d'entendre Joël Maillard le dire, parce que je ne l'ai pas encore entendu, ce sera la surprise demain.
Et puis en plus, c'est lui qui a choisi les passages, hein, il ne vous a pas averti, vous ne savez pas quels sont les passages qu'il a choisis.
Ah, il m'a quand même envoyé un petit montage. Donc, je sais quel passage c'est, mais je ne l'ai pas entendu.
Alors, ce roman, je crois qu'il a été écrit entre Berlin et la Bretagne, c'est juste ?
Oui, il a été commencé en Bretagne, dans la maison d'un phare, sur une île, enfin une semi-île, parce que quand la marée montait, ça devenait une île, c'était encerclé par l'eau. C'était un endroit hyper magique, où j'ai passé un mois toute seule, donc c'était une expérience vraiment très intense. J'ai commencé là-bas, un peu par petits fragments, puis j'ai continué à Berlin, parce que j'avais reçu un atelier du canton de Neuchâtel, un atelier d'artiste. Puis là, j'ai travaillé 6 mois, au printemps 2012, j'ai beaucoup, beaucoup produit de fragments, puis après, disons, la difficulté, c'était d'assembler tout ça, de faire le puzzle.
Vous étiez quand même dans deux univers complètement différents, entre le phare en Bretagne et Berlin, qui est une ville qui, artistiquement, est quand même très, très riche. Tout ça se ressent quand vous relisez ou quand vous imaginez la lecture de demain ?
Bon, le personnage de S, qui est la compagne du narrateur, elle est toujours décrite à travers un champ lexical un peu maritime, c'est toujours la mer, voilà, surtout quand il y a des passages de sensibilité, d'érotisme, c'est lié aux images marines. Donc ça, c'est clair que ça vient de cette île Vrac en Bretagne où j'étais. Mais Berlin, je pense, alors évidemment, j'ai profité à fond de la vie culturelle, la vie nocturne, mais c'était plutôt la récréation après le travail d'écriture. Donc je pense que Berlin a un peu influencé finalement. Je suis vraiment allée là-bas en important mon chantier, puis j'aurais pu être à Delémont, j'aurais fait pareil, je pense.
Bon, la vie nocturne est moins dense.
Effectivement, j'aurais peut-être plus pris de repos.
Quoique. Détrompez-vous. C'est beaucoup plus caché ici.
Le prix, c'est votre premier roman, Antoinette Richner. Vous avez déjà des pistes pour un deuxième?
Non, je suis plutôt sur des projets pédagogiques, en fait. Bah, justement, à Delémont, en fait, avec la Cour des Miracles, où je suis en train d'animer des ateliers pour différents groupes de personnes. On va dans le Home, la Promenade, l'École de Culture Générale, au CAF aussi, Centre d'Accueil des Femmes Migrantes. Donc voilà, je suis plutôt dans l'accompagnement des autres pour l'instant que dans une écriture propre.
Bon, pour l'instant, on va continuer à déguster ce prix, ce premier roman qui est donc paru chez Buchet Castel. Le vernissage, c'est demain soir au théâtre 221 à Lausanne. On mettra évidemment tous les détails sur le blog de Format 3. Merci beaucoup, Antoinette Richner, d'être venue chez nous ce matin.
Merci, Joël, pour cet accueil.